Vous écoutez
RMC.
Le dernier tiers-temps de l'After Tour avec nos consultants. On vous lâche entre les mains des auditeurs. Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Richard Virenque et c'est Alexandre de Montélimar qui est avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir tout le monde, salut l'équipe.
Salut Alexandre. Salut Alexandre.
Merci d'être avec nous dans l'After Tour. Je te laisse poser ta question ou tes questions à nos consultants.
Alors, les Jérômes et mes amis journalistes, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Del Toro risque d'être lâché par Pogacar si Remco attaque Pogacar?
Ah, ça c'est vrai que c'est un peu la problématique, la stratégie du AE. On se demande dans quel sens ça va tourner.
Alors Remco, il attaquera jamais Pogacar. Parce que Remco, il est content d'être dans la roue et sa place de deux lui va très bien. D'ailleurs, ce soir, il a clairement dit qu'il voulait stabiliser sa place de deuxième. Donc, il n'y aura pas d'attaque de la part de Remco Evenepoel. Personne n'osera attaquer Tadej Pogacar. On était en train, Alexandre, je pense que tu as des oreilles dans ce camion, parce qu'on était en train de parler de qu'est-ce qui pourrait déstabiliser Del Toro. Le seul qui a un intérêt à attaquer Del Toro, c'est Paul Sexas. Et ça, il faudra le faire le plus tard possible, au risque de se faire contrer et de perdre des places. Donc, moi, je vois absolument pas Evenepoel attaquer. En revanche, il y a une deuxième option. Et je te laisse, GG, la parole. C'est Del Toro, il peut péter sans que ça accélère. C'est déjà un peu arrivé dans les étapes précédentes où on l'a vu se faire distancer avec un train régulier sans attaque. Mais c'était le train de Visma.
Et voilà. C'est ça, c'était le train de Visma. Et ça change d'ailleurs au plateau de Solaison. Si Vingegaard n'avait pas chuté, ça aurait peut-être changé la donne. Et moi je suis complètement d'accord avec Jérôme. C'est-à-dire Remco Evenepoel ne va pas attaquer. Ça permettra à Tadej Pogacar. Alors pour répondre complètement à ta question Alexandre, si Evenepoel attaque Pogacar compte, bien sûr que Del Toro il pourra pas suivre, mais Evenepoel va pas le faire, il a trop à perdre à attaquer au risque de se faire contrer. Et Del Toro, des fois il finit très bien les ascensions, il arrive à bien finir ses étapes, donc ça serait beaucoup trop de risques. Le seul qui pourrait tenter, alors déjà faut pouvoir tenter quelque chose, donc les seuls qui peuvent éventuellement attaquer c'est Evenepoel et Paul Sexas. Ayuso Esquelmoze, ils s'accrochent comme ils peuvent pas vraiment attaquer, mais le seul qui a un vrai intérêt à attaquer pour aller chercher quelque chose, c'est Paul Sexas, pour aller chercher le podium. Mais, et ça peut être un risque.
Mais la Décathlon CMA-CGM n'a pas, à mon avis, un train suffisamment costaud en montagne. Il n'y a que Nicolas Prudhomme, Tige Benotte, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur les grands cols alpins. Pour essayer de mettre dans le dur l'UAE, ça va être compliqué. Les positions risquent de se figer dès le vendredi, quoi.
Richard, on a vu aussi Riquitello un petit peu mieux et on a vu parfois cette Décathlon CMA-CGM au pied d'école prendre les choses en main. Ça peut être aussi la physionomie des étapes à venir.
Ouais, moi je vois plus une course débridée avec ceux qui n'ont pas vraiment gagné encore sur ce tour, qui vont essayer de partir de loin et forcément ça va attiser un peu la course et vu que c'est un parcours difficile, quand on est dans la difficulté, quand on va être dans l'étape de samedi, monter une première fois l'Alpe d'Huez, tout ça, il va y en avoir deux partout. Donc il suffit pas vraiment d'attaquer, hein, la sélection elle va se faire uniquement l'élimination par l'arrière et le fait qu'il va y avoir des échappés, le fait que par exemple Martinez soit devant, il va être devant et imaginez qu'il est dans une échappée, il prend 6, 7, 8, 9 minutes derrière, ils vont devoir rouler et ça va attiser le groupe des leaders. Moi je pense que le parcours il est tellement bien fait qu'il suffira juste d'être bien. Et l'élimination, elle va se faire par l'arrière. Donc le fait d'être bien, si Paul Sexas est bien, eh ben il n'aura pas besoin d'attaquer peut-être à un moment dans les deux derniers kilomètres, trois derniers kilomètres, pour faire une sélection, pour aller chercher les 20 ou les 30 secondes qu'il a besoin. Mais en fait, d'être présent et d'être bien, ça va se faire par l'arrière.
Voilà Alexandre, la réponse de nos consultants, sauf si tu voulais compléter Jérôme.
Non, je voulais juste dire que le seul qui a un équipier de haut vol en montagne, c'est Tadej Pogacar avec Del Toro. C'est les seuls qui ont une force collective.
Mais il faut pas pour finir là-dessus, il faut pas se tromper de vraiment d'objectif, c'est pas à Décathlon CMA-CGM de prendre la course en main, de rouler, de faire un train comme fait l'UAE de Tadej Pogacar. Lui, Paul Sexas, il a 20, si vraiment il vise le podium, il a 20 secondes à aller chercher. Faut qu'ils suivent le train, voir comment ils sentent, et après, essayer juste à la fin des ascensions pour prendre 5 ou 10 secondes par-ci, par-là, et éventuellement monter sur le podium. Mais pas partir de loin, se faire exploser le caisson et prendre le risque de tout perdre.
Et ça, GG, ça a été pour moi, une des premières petites erreurs qu'a fait UAE à Solaison. Pourquoi ? Parce qu'on a compris aujourd'hui qu'on veut amener Del Toro sur le podium. Ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que quand Tadej Pogacar va faire le train dans le groupe maillot jaune, il fera le train que Del Toro supporte. Et là, les coureurs, quand ils vont s'apercevoir que ça roule un poil moins vite que d'habitude, ça voudra dire que Del Toro est moins bien. Et là, il faudra passer à l'action. Et ça, c'est peut-être avoir un peu trop abattu tes cartes un peu vite.
Souvenez-vous du petit échange à la fin du plateau de Solaison. Est-ce que je peux accélérer progressivement ? Ce sont les mots de Tadej Pogacar dans l'oreillette. Et là, Del Toro dit « ne me lâche pas ». Ne me lâche pas. Oui. Et ça, on va le revivre très certainement. Merci beaucoup, Alexandre. Et on retrouve Jérémy de Bourdoisan. Ah, Jérémy qui connaît bien la région.
Il est bien placé, là,
évidemment. Jérémy, bonsoir, Jérémy.
Bonsoir, tout le monde. Ravi de vous avoir.
Salut, Jérémy.
Merci d'être dans l'After Tour. T'as une question qui va faire plaisir à Jérôme Pinault.
Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, avec Christophe Cessieux, pendant la diffusion du Tour, vous aviez parlé un petit peu des règles sur les courses, notamment pour les courses contre la montre, et sur les règles de vélo, le poids des vélos. Et moi, j'avais une question sur le WhatsApp. Je me posais la question, pourquoi on bride ces règles ? Pourquoi on laisse pas libre cours aux constructeurs ? On laisse carte libre. Vous faites le poids que vous voulez. Le but serait de innover et faites les vélos les plus légers possibles. Pourquoi on limite à 6 kg ? C'est ça que je comprends.
J'ai une réponse très très simple, Jérémy. Aujourd'hui, on a vu la vitesse maximale de Del Toro, par exemple, il a été chronométré à 97,5 km/h. Un vélo en dessous 6,8 kg deviendrait un outil incontrôlable, trop léger, et donc faudrait prendre trop de risques aux coureurs. C'est juste une question de sécurité. C'est la même chose pour les étapes de montagne. Évidemment que l'on peut monter un vélo qui ferait 6 kg, même un peu moins. Mais dans les descentes, à très vive allure, le vélo deviendrait incontrôlable. Il y aurait des problématiques de sécurité. C'est pour ça qu'on a fixé ce niveau-là.
Le vélo pourrait presque se casser, peut-être, Jérôme Coppel.
Se casser, non, parce que le carbone, ça reste quand même très solide. Si tu fais un vélo, là, le poids minimum, c'est 6,8 kg. Si tu passes à 5,8 kg, il serait toujours aussi solide. Je veux dire, par contre, il deviendrait beaucoup plus flottant à haute vitesse. C'est-à-dire, tu aurais du mal, plus les roues qui sont de plus en plus hautes quand ça va vite. On a vu au chrono, tu prends un coup de vent avec un vélo à 5 kg, un vent de travers, tu t'envoles. Donc, il y a la sécurité. Après, moi, on m'enlèvera pas non plus en tête qu'il y a un côté un peu business à ça, parce que bientôt, peut-être que tu as raison, Jérémy, et que dans quelques années, le poids va devenir plus bas. Et tous les amateurs de vélo, les friands de matos qui ont un vélo à 6,8 kg, si le poids minimum passe à 6,2 kg, ils iront vendre leur vélo, ils iront en racheter un autre pour être à 6,2 kg, parce qu'il faut bien que le.
Il y a déjà beaucoup de cyclos qui sont en dessous 6,8
kg. Bien sûr, oui, parce que ça, c'est en compétition, hein, 6,8 kg, mais tu peux monter un vélo beaucoup plus léger, personne va venir te mettre une amende.
Richard, le poids était aussi à la même limite à ton époque ?
Il y avait des vélos en tuyau de chauffage, oui. Richard,
Non, j'avais des vélos très légers aussi, et même il y avait des coureurs comme Pantani ou d'autres, avaient des petits poids, ils étaient obligés de coller des poids sur leur cadre, pour rester au niveau de la réglementation. Oui, on a eu des vélos très légers, mais le problème de mon époque, c'est que on changeait assez souvent de vélo parce que les matériaux n'étaient pas assez rigides, ils s'abîmaient assez vite. Donc oui, on avait des vélos légers.
Il collait des poids, donc des autocollants pour donner
ouais,
un peu
ouais,
plus
ou
de...
Ouais, des petits poids.
Ah non, des poids. Ah oui, mais quand tu parles des poids, je pense toujours à tes poids, moi, au maillot
oui,
à poids.
Non, voilà. non, il lestait avec des poids.
Il lestait le vélo.
Ouais. Oui, il lestait avec des poids. Ça m'avait surpris et je lui avais demandé pourquoi, parce qu'ils avaient descendu trop bas leur vélo et ils le remontaient avec des poids pour être passé à la réglementation.
Jérémy, qui est du Bourdoisan, Richard s'en souvient, on a fait contre la montre en montée Bourdoisan Alpe d'Huez. On avait la pesée du vélo avant d'aller prendre le départ. Je peux vous dire que chaque coureur cycliste qui avait envie d'avoir un résultat avait un vélo à 6,8 kg. Et la première chose qu'il faisait avant de prendre le départ, c'est d'enlever le bidon ou de le vider de moitié pour passer sous cette fameuse limite, parce que tous les poids qu'on pouvait enlever, il n'y avait pas de problème de sécurité, puisque à ce moment-là, quand on a fait le chrono, on redescendait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un argument de sécurité, parce que malgré tout, ça reste des vélos qui vont très très vite, 100 à l'heure, 100 km heure aujourd'hui.
Voilà, Jérémy, tu as la réponse à ta question. Est-ce que ça te satisfait? Et puis surtout, comme tu es du Bourdoisan, on a envie de savoir si tu vas être au bord de la route dans les jours à venir.
Je vais y être au bord de la route, je vais avoir un petit déguisement et puis on va peut-être faire un petit clin d'œil à RMC, on verra sur une pancarte, on verra si vous me plaît.
Ah, très bien. Il ressemble à quoi ton déguisement?
C'est une poule gonflable.
D'accord.
Ça très sera bien, une petite poule gonflable que je vais chevaucher.
Sois bien grosse poule, hein, parce que comme ça on te verra de loin, parce qu'avec le monde qu'il va y avoir dans la montée, il risque d'en avoir des poules dans la montée.
C'est la Marjac qui sera contente.
Merci beaucoup Jérémy.
Merci à vous,
on te retrouve sur le bord de la route et dans l'after tour si tu le souhaites dans les jours à venir. Messieurs, on a comme d'habitude quelques secondes pour avoir votre pronostic et puis peut-être une petite photographie de l'étape de demain. On va partir de Chambéry et arriver à Voiron avec une belle entrée hein, pour commencer, Jérôme.
Ah oui, toutes les difficultés sont regroupées dans les 60 premiers kilomètres. On aura 4 difficultés, 3 difficultés de 4e catégorie et une de 3e catégorie. Après, c'est pas plat. Hein. Par contre, même quand on aura fait les difficultés, ça reste vallonné. Le sprint intermédiaire, très tard, il y a 174 kilomètres dans l'étape. Le sprint intermédiaire sera situé au kilomètre 147. Avant l'arrivée à Voiron, on l'a regardé avec Gégé tout à l'heure, qui va être très très tortueuse. Hein. 3 virages à 90 degrés dans le dernier kilomètre. Ça devrait être les baroudeurs demain. On n'aura pas d'ailleurs de sprint massif demain, mais attention quand même au final.
Ouais, bon, tu nous as pas donné de nom, donc tu as quelques secondes pour réfléchir.
Mathieu Van Der Poel.
Mathieu Van Der Poel, dès qu'on parle de poule, ça y est, c'est le mot qui...
Moi, je reste, Jérémy était là, il m'a parlé de poule, c'est le premier nom qui m'est venu.
Richard Virenc, ton pronostic.
Première victoire française demain. Kevin Vauclin. Qui sauve son
pas
tour.
Mal. Ouais, ça peut être intéressant. Il va y avoir, Jérôme Pinot, on l'imagine, un gros groupe qui va partir demain.
Ouais, moi je vais plutôt nommer le plus fort de l'étape de Solaison après Pogacar, Quinn Simons.
Quinn Simons, tu le vois passer les grosses difficultés là.
Il a vu passer le col franchissable de chez GG, le Salève là. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Hein. Ouais, et Solaison, s'il s'en occupe pas, il gagne aussi. Donc. Ouais. Je pense qu'il a une bonne patte.
Et américain. En plus, s'il a eu le temps de passer chez le coiffeur, lui, il va perdre au moins un kilo.
Il a stache mou 2. Impeccable.
Merci, messieurs. Merci, Richard. Merci, les GG.